Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Bonjour Jean-Marie Tarascon, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes depuis le 23 janvier 2014, date de votre leçon inaugurale, titulaire au Collège de France de la chaire Chimie du solide et de l'énergie. Votre premier cours s'intitulait Chimie du solide, de l'atome vers les matériaux pour l'énergie et cette année 2015 est consacré aux meilleurs matériaux pour l'énergie via la chimie du solide, synthèse et caractérisation. Mais vous aviez déjà prononcé une leçon inaugurale le 9 décembre 2010, puisque vous aviez été élu pour occuper la chaire Développement durable, environnement, énergie et société. Alors cette leçon s'appelait « Énergie, enjeux et défis de son stockage électrochimique dans le cadre du développement durable ». Et votre cours portait alors sur l'énergie, stockage électrochimique et développement durable. Donc vous nous direz s'il y a un lien entre ces deux chaires et entre ces deux cours, mais on aura compris que vous êtes chimiste, de toute façon. Et comme tous les savants, vous ne faites mention dans votre biographie que de votre très brillant parcours professionnel. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce qui a pu conduire le jeune Jean-Marie Tarascon a choisi cette voie palpitante. Alors, est-ce que c'est une passion familiale? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'enfant que vous avez été est devenu chimiste?
Écoutez, d'abord, c'est un plaisir d'être ici et de venir un peu vous raconter les motivations qui vont amener finalement à faire de la recherche. Et vous allez voir que ça, c'est finalement, c'est du hasard. Parce que, bon, jeune, fils d'agriculteur, dans le Marmandais, j'étais plutôt voué à être un travailleur de la terre. Et cet accent, je l'ai surtout pris sur le terrain de rugby, plutôt que sur les bancs de l'université.
Ah, vous êtes aussi rugby.
Voilà, c'est un peu pour ça. Bon, alors, comme mes parents souhaitaient quand même que je sois un peu éduqué, ils m'ont envoyé à l'école classique jusqu'à Marmande, et ensuite à l'université. Mais lorsque je suis allé à l'université, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Par la suite, bon, comme il fallait faire des études et quand mes parents m'ont poussé toujours, bon, j'ai intégré l'école de chimie de Bordeaux. Et c'est là que le déclic, je dirais, s'est passé, quoi. Puisque je crois que c'était en seconde année, on avait des cours de brillants professeurs, dont un dénommé Michel Pouchard, qui faisait un cours sur le magnétisme. Et je ne sais pourquoi, durant son cours, je me suis enfin intéressé au cours. Et j'ai trouvé ça passionnant, et ça fait un déclic de curiosité en moi-même. Et je crois que c'était à l'âge de 24 ans. Et à l'âge de 24 ans, c'était la première fois, parce que j'avais été passionné par un cours, que j'ai mis les pieds à la librairie. Je n'étais jamais allé par moi-même consulter des bouquins à la librairie, et ainsi de suite.
Ah, c'est extraordinaire, parce qu'en général, on dit que les scientifiques démarrent assez tôt leur carrière. Et vous, au fond, 24 ans, c'est déjà vieux pour un scientifique.
Oui, non, définitivement, c'est déjà vieux. Et je pense que certaines des bases me manquaient au départ. D'où il a fallu que je rattrape et je fasse du rattrapage. Et vous verrez peut-être par la suite où j'avais fait encore des fautes de jeunes à l'époque. Puisque, bon, quand on verra mon parcours par la suite, j'ai terminé aux États-Unis pendant 15 ans. Et à cette fameuse époque où finalement l'éducation ne m'intéressait pas énormément. En quatrième, à l'époque, on avait le choix de choisir une langue. J'ai commencé l'anglais, après 2 mois j'ai arrêté parce que j'ai dit ça ne me servira jamais à rien. D'où, vous voyez, tout l'handicap que j'ai cumulé jusqu'à 24 ans. Et ensuite, si vous voulez, ça fait boule de neige. J'ai été passionné par cela, j'ai décidé de faire une thèse. Et une thèse, j'ai eu une chance inouïe aussi, c'est que j'ai travaillé sur un sujet qui était un sujet dans lequel il y avait un débat scientifique sur des résultats qui n'étaient pas vérifiés. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 1 an avec un Japonais, un dénommé Mitsui Katsaya. Là, on a travaillé ensemble et c'était passionnant parce que j'avais finalement un professeur pour moi. Et il était sur le magnétisme, donc c'était passionnant. Bon, d'où j'ai fini ma thèse. Et à la fin de ma thèse, je dirais, bon, peut-être un peu envie de voir autre chose que la hiérarchie française, j'ai décidé de partir aux États-Unis.
Et vous ne parliez pas l'anglais toujours?
Et justement, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai dit oui, enfin l'anglais, je le parle, puisque j'ai pratiqué avec un japonais. Et là, ça allait être une grande histoire. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis parti à Cornell. Bon, je suis arrivé à Cornell, en novembre. L'hiver commençait à frapper à la porte. Il faisait moins 20 degrés, mais ça a été assez difficile. Les premières conversations en anglais, j'étais très déçu, puisqu'ils ne comprenaient strictement rien. D'où il a fallu que j'écrive chaque fois sur un bout de papier ce que je voulais. D'où la nécessité de prendre des cours le soir. D'où je faisais la recherche durant la journée et j'allais suivre des cours le soir. Voilà comment ça s'est passé pendant un an et demi.
C'est un parcours vraiment d'abord très atypique et complètement passionnant parce que ça fonctionne comme un coup de foudre pour une matière, hein, pour un objet, pour une recherche.
Je pense que c'est un coup de foudre. La recherche, bon, ouais. Aujourd'hui j'en suis malade si vous voulez. Enfin, quand on est passionné par la recherche, être chercheur c'est même plus un travail. C'est une passion où on se met notre propre pression mais on a notre propre jeu. Et on est pris par ce jeu, résoudre les problèmes, trouver un composé, trouver la bonne méthode de synthèse. C'est un jeu sur lequel bon, on peut directement, le soir, on peut continuer à faire des manips pour voir les résultats.
Et donc tout le reste s'ensuit, c'est-à-dire que vous apprenez tout en fonction de cette passion.
Voilà, on apprend en fonction de cette passion. Bon, et ensuite, si vous voulez, lorsque j'ai fait un an et demi à Cornell, j'ai intégré les laboratoires de la Bell. À l'époque, les fameux laboratoires de Bell Labs. Et là, bon, pour la bonne et simple raison, c'est que j'avais un autre idole dans ma tête, un autre modèle, si je veux dire, qui était Don Murphy, qui était un scientifique qui travaillait, lui, sur déjà des composants d'insertion pour les batteries. D'où c'est là que j'ai pu aller à Bell Laboratories, bon, qui était une place formidable. Je regrette qu'elle n'existe plus pour les jeunes aujourd'hui, car là, vous devenez passionné par la recherche.
Pourquoi ça n'existe plus ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que c'était un endroit, tout était lié à la recherche. Bon, Bell Labs, c'est certainement l'endroit où vous avez le plus de prix Nobel au mètre carré. Et c'était, je dirais, les gens travaillaient par passion, il n'y avait pas d'horaire, vous y allez le dimanche, la semaine, il y en avait autant de personnes. Ça n'existe plus parce qu'il y a eu, aux États-Unis, ça remonte à les années 1981, il y a eu à l'époque la loi antitrust, qui fait en sorte que Bell Labs avait le monopole des téléphones, et le gouvernement américain a décidé, finalement, de splitter, de séparer Bell Labs entre deux entités, qui étaient Bellcore et AT&T Bell Laboratories, dont la dernière est devenue Lucene, ainsi de suite. Et c'est là que j'ai fait effectivement un post-doc à Bell Labs, et ensuite, lors de cette séparation, j'ai rejoint Bell Communication Research, qui était un nouveau laboratoire fait de jeunes, je dirais, jeunes et plus ou moins vieux, mais de gens qui devaient monter un laboratoire et finalement s'identifier rapidement, et on était responsable de tout le téléphone aux États-Unis. D'où là aussi, les 5 ou 6 premières années, ou 10 premières années, ça a été le rêve, parce que si vous voulez, bon, quand j'ai été embauché, cette boîte, on m'a dit, faites ce que vous voulez.
C'est génial.
Mais soyez le meilleur dans ce que vous faites. C'est tout.
C'est formidable.
Voilà. Et on a eu, bon, et on a eu, je dirais, 10 ans magnifiques. Et ces 10 ans magnifiques, ça remonte des années 1981 jusqu'aux années 1990-1991, où on pouvait directement apercevoir la difficulté économique ou la diminution, je dirais, des activités économiques. Et il s'est trouvé qu'on faisait, nous, on faisait des recherches, si vous voulez, mais complètement pour l'intérêt vraiment dans la recherche. Et comme je vous l'ai dit, théoriquement, on devait être laboratoire de recherche pour toutes les compagnies de téléphone des États-Unis. Et à l'époque, par exemple, j'avais travaillé sur les batteries, et à l'époque, il y a eu, vous avez rappelé, dans les années 1987, les supraconducteurs, c'est-à-dire des matériaux qui ont une résistance nulle à partir d'une certaine température critique. D'où il y a eu un engouement mondial sur ces matériaux. D'où on a travaillé là-dessus, et avec un groupe, et on était assez performants. Et je dirais, on était quand même presque dans les meilleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé, vous allez voir comment ça change, en 1991, il y a eu un tremblement de terre aux États-Unis, en Californie. Et lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a le téléphone, vous voulez utiliser le téléphone. Et théoriquement, il faut qu'il y ait assez d'énergie en réserve via les batteries pour pouvoir téléphoner 8 heures après le tremblement de terre. Ce qui est arrivé, c'est qu'après une heure, il n'y avait plus de batterie, tout était coupé. Alors, là, l'histoire était que le président de la compagnie aux États-Unis, a téléphoné à Bellcore et a demandé finalement qu'est-ce qui se faisait dans les laboratoires de recherche sur les batteries. Malheureusement, on ne faisait rien. Et là, du jour au lendemain, c'est-à-dire en 48 heures, eh bien, il nous a tout simplement dit, vous changez de thématique, vous partez. Et on est passé finalement de héros à des zéros.
C'est tellement américain ce que vous racontez, c'est presque caricatural.
C'est caricatural, mais c'est la réalité, si vous voulez. Et comme j'avais fait en tant que postdoc certaines recherches sur les batteries, ainsi de suite, eh bien, j'ai été mis en charge de fonder ce groupe pour faire la recherche sur les batteries aux États-Unis. Et lorsque j'ai mis ce groupe en place, il y avait deux aspects. L'aspect, je dirais, recherche pour servir, si je peux dire, nos clients, qui étaient les 9X, et avoir un peu un jardin secret de la recherche visionnaire sur de nouvelles technologies.
C'est-à-dire que vous teniez les deux, voilà, les deux côtés, à la fois l'utile et le,
voilà, l'utile
et, puis le, et la recherche pure, quoi.
Voilà, et puis le futuriste, ou la, ce qui, oui, nous fait rêver, quoi.
Ce qui fait rêver.
Voilà, et c'est là, effectivement, que, en ce qui vient d'arriver, c'est là que, bon, j'ai lancé une thématique sur le développement d'une fameuse technologie, qui est la technologie plastique, à ion lithium plastique. Là, si vous voulez, c'était en 91, avec, bien sûr, ils m'ont donné le temps, mais un temps limité. C'est-à-dire que j'avais 4 ans pour montrer ce que je voulais faire.
Ça suffit, ça
Alors, il s'est trouvé qu'en ce cas, par une chance, je dirais inouïe, certainement, on avait pris, ou j'avais bien visualisé le sujet, et le but était de développer une technologie comme l'ion lithium que vous avez actuellement, mais des batteries plates.
C'est-à-dire que vous aviez fait une hypothèse qui s'est révélée juste.
Une hypothèse qui s'est révélée juste. Bon, alors l'hypothèse, il ne fallait pas être un grand visionnaire à l'époque pour savoir qu'il fallait des batteries configuration plate quand on voyait directement la miniaturisation de l'électronique. Les gens avaient essayé, mais n'avaient jamais réussi. Et d'où on a tenté directement cet objectif. Et pour ce faire, eh bien, là aussi, je crois que c'est intéressant, c'est un travail d'équipe qui nous a permis de réussir dans cette tâche. C'est-à-dire qu'on a commencé en 91, on a trouvé un procédé avec une étape qui était astucieuse, mais pas révolutionnaire, parce qu'une étape qui était utilisée dans d'autres domaines de la recherche.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bon, il s'est trouvé que j'avais dans la tête exactement ce que je voulais développer. Mais je n'avais certainement pas les compétences moi-même de le faire.
Mais c'était quoi cette étape ?
Cette étape, justement, c'est une étape... c'est une batterie qui est plastique. Okay ? Plastique, ça veut dire quoi ? Si vous prenez tous les plastiques qui vous entourent ici, il faut que vous sachiez qu'il y a 50% de liquide. Par conséquent, un accumulateur, c'est une boîte dans laquelle vous avez du liquide. D'où l'astuce, c'était de piéger ces liquides et d'en faire une technologie sèche, si je peux dire, sans liquide. Par conséquent, l'astuce a été directement de prendre ces matériaux, d'avoir ce liquide qui allait servir notre électrolyte à notre accumulateur, et ensuite de pouvoir le mettre et le retirer. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est tout ce qui se faisait dans le domaine des plastiques. Et il s'est trouvé, comment ça s'est passé, c'est qu'à Bell Labs, je déjeunais avec un collègue qui était un spécialiste des plastiques, et je lui ai présenté mon problème. Il était enthousiasmé si fort qu'il était chef de groupe, il a démissionné pour venir travailler à moi.
Donc vous avez pris vraiment des gens passionnés aussi.
Voilà, c'est ça. Et on a développé cet accumulateur.
Formidable.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est toujours pareil. Hein. On a développé, alors par contre, pendant 3 ans, si vous voulez, au niveau recherche, publication, j'étais cloisonné. On prenait des brevets, mais personne ne savait ce qu'on faisait. Et c'est en mars 15 1994 où on a révélé au monde américain notre découverte. Et pour ça, aux États-Unis, on vous prépare très bien. Ils avaient réservé un hôtel à Manhattan, dans lequel on s'est déplacé avec nos systèmes et on a fait le show américain. Donc voilà, si vous voulez, mon expérience américaine.
C'est quoi le show américain d'un scientifique ?
Le show américain, c'est-à-dire que, bon, aux États-Unis, dans ce qu'on fait, la publicité, rien n'est laissé au hasard.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que même nous-mêmes, en tant que scientifiques, on a eu une journée de formation. Comment répondre aux journalistes ? Des quelques règles que je me rappelle, ne jamais reprendre leurs questions, et ainsi de suite. Bon, c'était assez... Bon, ils avaient réservé un hôtel, c'était assez prestigieux, puis assez, bon, impressionnant, quand même.
Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait des conférences et des choses comme ça ?
Mais bon, après...
Racontez-nous un peu ce parcours de vedette américaine.
Enfin, vedette américaine, non, pas du tout, parce que, aux États-Unis, ce qui est important, c'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire. Alors, malgré, directement, cette découverte qui a rapporté énormément à la compagnie, puisque cette technologie a été... les licences ont été cédées à beaucoup de compagnies de batteries qui ont exploité, ainsi de suite. Mais après, bon, il fallait poursuivre et la tension était encore importante. D'où là, bon, j'ai encore proposé d'autres idées farfelues sur les matériaux, ainsi de suite. Et là, malgré que j'avais un succès, ils n'étaient pas des plus enchantés, si vous voulez. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'ai le choix. Soit je quitte cette compagnie et je vais dans l'université américaine, soit je reviens en France. Et j'ai opté pour cette dernière.
Alors, comment comment est-ce que ça s'est passé, votre retour en France? Vous avez enseigné dans des universités en province.
Alors bon, le retour en France, bon, effectivement, je suis revenu à Amiens.
Ça a dû être difficile.
Ça a été difficile, effectivement, parce qu'il fallait se réadapter finalement à la culture française.
Au statut de professeur. Tellement brillant par rapport au statut qu'on peut avoir aux États-Unis.
Non, c'est ça, mais bon, on peut revenir. Bon, c'était un poste de professeur et de recherche également, d'où effectivement il y avait l'enseignement. Enseignement dont je n'avais jamais fait auparavant. Mes premiers cours ont été un peu folkloriques. Et ensuite, bon, on s'acclimate et on arrive à s'améliorer en interagissant pas mal avec les étudiants.
Donc, premier poste Amiens, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
C'est une belle université, ça?
L'université, oui, mais surtout pour la recherche.
Ah,
quand
oui?
Je dis d'opportunité au niveau financement de la part de la région,
ah,
la
bon?
Région supporte beaucoup plus, pèse beaucoup plus. En pourcentage, certainement non, mais comme on est peu nombreux par rapport à Paris, on a plus d'argent.
Bien sûr.
Voilà, c'est un problème, ouais, ça c'est juste un des avantages.
Et comment travaillaient les chimistes français? Quels étaient leurs tracas, leurs préoccupations, l'objet de leurs recherches?
Bon, finalement, le choix d'aller à Amiens, bon, il y a pas mal de concours aux circonstances, parce qu'au départ, si vous voulez, bon, je voulais revenir en France. Je m'étais intéressé, bon, c'est un collègue d'ailleurs, qui était un ancien professeur, qui était bon, Michel Figlas, qui était malade et qui savait qu'il avait un cancer. Il savait qu'il voulait mettre un successeur qui donne de l'ampleur à son laboratoire. J'étais allé visiter et j'avais vu que dans ce laboratoire, il y avait surtout une expertise en matériaux, mais pas d'électrochimie. Finalement, je voyais qu'il y avait une terre fertile pour faire quelque chose. Mais si vous voulez, je m'intéressais, mais bon, sans plus. Et vous savez, vous êtes intéressé par un poste, mais vous n'avez pas le cœur à ça encore. Et chaque fois qu'on parlait, je demandais toujours quelque chose de plus. Et chaque fois, il m'a l'accordé. D'où, si vous voulez, j'ai demandé la chose, enfin, pas des choses impossibles. Et à la fin, je me suis pris au piège en disant, s'il m'accorde ça, je ne peux plus dire non. C'est un peu ce qui a fait que j'ai réussi à venir en France. Alors bon, venir en France, si vous voulez, après, bon, bien sûr, c'est difficile. Parce que naïvement, on veut essayer d'adapter la culture américaine à la culture française. Et bon, et moi, quand j'avais été assez passionné par la culture américaine, par exemple, vous savez, aux États-Unis, vous allez dans tous les magasins, vous voyez le meilleur ouvrier du mois. Naïvement, j'ai dit, je vais faire le meilleur chercheur de l'année à l'université. Ouais. Alors en France, directement, lorsqu'on veut directement faire de la sélectivité, ce n'est pas toujours des mieux vus. Alors ça, j'ai fait ça pendant quelques années, bon, j'ai arrêté ça. Ensuite, bon, il y avait un système qui se fait actuellement en France, mais qui n'était pas à l'époque, ce qu'on appelle la merit review. C'est-à-dire, bon, à la fin de chaque année, vous asseyez avec votre collègue, les chercheurs, ainsi de suite, et vous finalement vous faites un bilan, et vous directement donnez les perspectives pour le futur. J'ai essayé de faire ça aussi. Mais bien sûr, bon, lorsque mes collègues sont allés voir ce que merit review voulait dire, ça veut dire qu'on fait ça pour déterminer les 2% de personnes qui ne sont pas assez performantes et pour les virer. Comme si on pouvait virer quelqu'un en France. D'où il y a eu pas mal d'anecdotes pour s'habituer au système français. Mais il faut quand même reconnaître que le système français a des gens très compétents. La seule différence, je dirais, est qu'on a des gens compétents, mais qui sont vraiment sur leur domaine bien spécifique. Ils n'ont pas, je dirais, le vernis scientifique, si je peux dire ça, que les Américains ont.
Mais ce travail que vous retrouvez au Collège de France, ou très interdisciplinaire d'une certaine manière, est-ce que vous l'avez vécu comme ça aussi aux États-Unis?
Oui. Alors, il faut faire attention également, effectivement, avant de tirer des conclusions sur un pays, comme je suis en train de le faire, dans quel secteur on a vécu.
C'est-à-dire, on a l'impression, en vous écoutant, qu'il y a des perspectives évidemment beaucoup plus intéressantes aux États-Unis. En même temps, on a aussi l'impression que si vous n'avancez pas, vous êtes fichu, quoi. Et que vous ne pouvez pas creuser un trou, un sillon dans votre coin.
Oui, il y a un peu de ça. Mais bon, la question que vous posez, qui est très intéressante, c'est le fait de vivre ça aux États-Unis en disant, bon, l'université et le secteur, je dirais, recherche. Il se trouve que toute mon expérience aux États-Unis a été vraiment particulière. Ça a été dans un des plus grands laboratoires de recherche,
ouais,
où on faisait ce qu'on voulait. Et si vous voulez, je me suis pris moi-même au propre piège. C'est-à-dire qu'il y a de cela 5 ou 6 ans, eh bien, avant de venir au Collège de France, justement, eh bien, j'étais tenté de repartir aux États-Unis. J'avais une position, une offre, en Californie, à Santa Barbara. J'avais une position de professeur, enfin, tout était fait. Et par prudence, j'ai voulu aller faire un sabbatique. C'est-à-dire passer 6 mois pour voir comment ça se passait. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un changement radical entre l'université et les laboratoires, la belle où j'étais. C'est-à-dire toute cette discussion de couloir, ainsi de suite, qui alimentait, qui nous faisait rêver
bien sûr.
Au niveau des laboratoires de label, n'existait plus dans l'université, ou seulement vis-à-vis des étudiants, car les professeurs sont tellement occupés que pour avoir des discussions scientifiques, ainsi de suite, il faut quand même pas mal de temps, c'est pas spontané, il faut s'y prendre à l'avance, ainsi de suite.
Alors, est-ce que vous voulez dire que le statut de, disons, ce qu'on appelle, comme ça, de façon peut-être un peu rapide, d'enseignant-chercheur, est beaucoup plus intéressant en France, et qu'il y a plus de possibilités pour faire à la fois de l'enseignement et de la recherche ici?
Je pense que là aussi, ça évolue. C'était effectivement définitivement comme ça au départ, mais on est en train de se caler, je dirais, au système américain, puisqu'à l'heure actuelle, les financements, on doit maintenant écrire des projets. C'est-à-dire qu'il y a les systèmes d'ANR, il y a, l'Europe, et le financement pour des laboratoires vient maintenant, quand même, en majeure partie, des contrats ANR, des contrats européens, ainsi de suite. C'est-à-dire l'argent de base pour les laboratoires est moindre qu'avant. Ce qui fait que les chercheurs ont plus de travail à rédiger des projets, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup moindre, si vous voulez,
qu'aux États-Unis. C'est très intéressant parce qu'au fond, on imite les États-Unis là où on ne devrait pas les imiter et on ne les imite pas là où on devrait les imiter d'une certaine manière. Il y a un décalage, un malentendu d'une certaine façon.
C'est un problème de poids et mesure. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'un chercheur passe son temps à écrire des projets. Et si vous voulez, en France, le CNRS, c'est quand même, une institution qui est magnifique sur la base. C'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche, se vouer à la recherche, dédier tout son temps à la recherche. C'est quand même presque le rêve. Mais effectivement, pour cela, il faut du financement. Et au jour d'aujourd'hui, on demande même aux chercheurs de CNRS d'aller chercher de l'argent pour les contrats, et ainsi de suite. Mais il reste encore beaucoup de temps à ces chercheurs pour faire de la recherche. Bon, lorsque vous êtes un prof américain, vous avez des groupes de 20 à 30 personnes. Et tout ça est alimenté par l'argent que vous allez chercher avec les contrats. Ce qui fait que les professeurs sont certainement brillants, mais passent beaucoup de temps à rédiger des contrats. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on sait mieux vendre ses recherches aux États-Unis qu'en France.
Oui.
Parce que tout simplement, il faut savoir les vendre pour retrouver, si je peux dire, un retour d'intérêt et des personnes qui veulent investir sur ce que vous faites.
Est-ce qu'à Amiens, Jean-Marie Tarascon, vous avez croiser, rencontrer des jeunes gens qui vous ressemblaient à l'époque où vous avez vous-même commencé à faire de la chimie, c'est-à-dire des jeunes gens qui ont eu tout d'un coup une passion folle, qui ont eu envie de faire des recherches.
Oui, définitivement. Je dirais c'est presque le rêve d'un prof, oui, d'avoir des étudiants qui soient passionnés autant que vous par la recherche, enthousiasmés et qui ont de beaux parcours à l'heure actuelle. Ça, c'est
une réussite.
C'est une réussite afin de voir. Pour un professeur, c'est la plus belle réussite, c'est de voir les étudiants qu'il a formés, qui grandissent bien et même deviennent meilleurs que vous. Je pense que ça, c'est un des plus beaux rêves.
N'exagérons rien.
Non, c'est quand même un peu le rêve d'avoir quelqu'un qui accroche et qui est passionné, c'est magnifique.
Alors, après Amiens.
Bien après, Amiens, si vous voulez, j'avais un laboratoire de recherche à m'occuper, d'où je faisais de la recherche. C'est un laboratoire qu'on a complètement dédié, à l'électrochimie, au monde des batteries. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Amiens, si vous voulez, n'est pas connu en France, peut-être beaucoup. Mais je pense que, au niveau du laboratoire d'Amiens, il était connu mondialement. C'est-à-dire qu'on était plus connu mondialement qu'en France. Parce que, on avait quand même une renommée, scientifique, qu'on a établie et qui était reconnue dans le monde entier. Amiens a été un laboratoire de pointe, est encore un laboratoire de pointe. C'est d'ailleurs là où va se trouver le centre du réseau français sur l'énergie. Quand je parle du fameux réseau français, c'est un ensemble de laboratoires. Ouais. Donc, je peux dire, Amiens est la vitrine. Mais il y a d'autres laboratoires en France,
Vous voulez dire que Amiens est devenu vraiment une référence internationale pour les recherches en chimie.
Pour les recherches sur les batteries.
Sur
les batteries, définitivement. Ouais.
Même pour les Américains, les Russes, les Chinois.
Définitivement, ils savent qu'Amiens existe, ils savent les recherches que l'on fait.
Alors, qu'est-ce qu'on fait comme recherche à Amiens en ce moment, par exemple, Jean-Marie Tarascon?
Mais écoutez.
Et qu'est-ce qu'on trouve?
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on trouve? Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, moi, Amiens, je le supervise, mais je regarde parce que je suis au Collège de France et je fais mes recherches au Collège de France. Mais je dirais, durant ma période à Amiens, on a quand même fait évoluer beaucoup cette technologie à ion lithium. En toute modestie, je crois qu'on a été les promoteurs du virage de matériaux massifs aux matériaux nanométriques, qui ont permis, je dirais, de mettre en évidence d'autres mécanismes réactionnels, qui ont permis d'utiliser des matériaux qui jusque-là étaient délaissés. Vous prenez par exemple le phosphate de fer LiFePO4, qui est un matériau qui a été conçu ou développé par Michel Armand, du moins le broyage et surtout l'enrobage. Mais on a montré par des réactions de conversion, et là je vais parler dans les détails, mais c'est des passages à l'échelle nanométrique qui nous ont permis d'améliorer des matériaux et de faire en sorte que des poudres nanométriques présentaient une utilité dans les matériaux d'électrode, en augmentant, je dirais, la puissance.
Vous gardez encore un contact avec Amiens quand même,
Bien sûr, il y a toujours un contact avec Amiens, puisque je me suis investi beaucoup pour ce réseau, beaucoup pour le bâtiment qui est en train de se construire à Amiens, et ainsi de suite, d'où automatiquement, et j'ai encore des contacts, et via le RS2E, puisque je m'occupe, je suis le directeur de ce réseau français, et automatiquement, j'ai des contacts avec Amiens encore.
Comment vous êtes-vous retrouvé, Jean-Marie Tarascon, titulaire de la chaire au Collège de France, de la chaire de développement durable, environnement, énergie et société? En quoi est-ce que vous êtes concerné directement par le développement durable?
Écoutez, le développement durable est une thématique qu'il a fallu intégrer dans nos recherches il y a de cela 10 ans. Parce que si vous prenez l'accumulateur ion-lithium qu'on utilise aujourd'hui, et si vous faites des études d'analyse de cycle de vie, et vous apercevez finalement que, malgré les discours qu'on entend, si on peut remplacer tout par le véhicule électrique, ainsi de suite, ça serait très magnifique. Il faut quand même voir qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous voulez fabriquer 1 kWh de batterie, il vous faut 380 kWh d'énergie.
Oui, c'est-à-dire du nucléaire, pratiquement.
Alors, voilà. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus. Mmh. Également, vous allez relarguer, je dirais, 80 kg de CO2.
Ah oui, d'accord.
Vous apercevez finalement que les systèmes qu'on a aujourd'hui, malgré...
Ils sont très polluants.
Sont polluants. Et d'autant plus que si on utilise l'énergie qui vient directement du charbon, et ainsi de suite. En venant du nucléaire, d'accord, c'est mieux. D'où par conséquent, il y a eu toute une vague de recherches, comment faire pour finalement diminuer cela. Et une fois de plus, je dirais, c'est finalement le monde industriel qui va forcer cette recherche. D'où tous les efforts qu'il y a eu de développer notre méthode de synthèse. Au jour d'aujourd'hui, tous les matériaux que vous utilisez dans ces accumulateurs sont des matériaux qui sont préparés à 1000 degrés. C'est-à-dire, c'est des systèmes très énergivores. Mmh. D'où, par conséquent, on essaie tout simplement d'abaisser les conditions de synthèse de ces matériaux. Dans la même voie, on essaie, de préparer des matériaux par des méthodes de biominéralisation. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, des bactéries pour générer ces matériaux d'électrode via des métabolismes qui vont, dans ce cas, utiliser des réactions enzymatiques relativement efficaces pour préparer des matériaux d'électrode.
Mais ce n'est pas beaucoup plus lent ?
C'est effectivement beaucoup plus lent, mais il y a des moyens d'accélérer cela. Parce que si vous regardez dans certains moyens de fermentation, préparation de la bière, c'est une fermentation. Il y a des possibilités, je dirais, de passer à la grande échelle. Et c'est un peu ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, dans le cadre du réseau français.
Vous pensez qu'il va y avoir bientôt des usines qui pourront accélérer ces procédures et finalement produire une forme d'énergie un peu nouvelle?
C'est toujours de l'énergie qui va provenir de matériaux d'électrode. Ouais. C'est plutôt la source de ces matériaux d'électrode.
Ouais.
C'est l'approche minérale. On peut utiliser des oxydes, on peut utiliser ces matériaux qui vont être, synthétisés par les bactéries, et également une approche qu'on a développée, et à Amiens encore, un jeune dont le nom est Philippe Oiseau, on a développé, où dans ce cas, bien effectivement, on a utilisé l'alternative végétale à l'alternative minérale. C'est-à-dire que, par exemple, on prend des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui peuvent constituer votre corps, et qui ont des couples redox ou des centres redox, comme matériaux d'électrode. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, on peut faire des accumulateurs au niveau du laboratoire, on n'est pas passé à l'échelle chez l'industriel, qui, directement, vont transformer de la biomasse en énergie.
Ben vous pensez, par exemple, qu'on peut récupérer comme ça des algues, des...
Bien sûr. C'est-à-dire, bon, dans ce cas, c'est des molécules qu'on peut extraire du maïs, par exemple.
Ah ouais.
Et ça, on peut directement les utiliser comme matière d'électrode de batterie.
Alors donc, c'est vraiment des énergies de l'avenir, en quelque sorte.
C'est des énergies de l'avenir. Et nos recherches à l'heure actuelle, eh bien, c'est faire en sorte qu'on arrive finalement à les rentabiliser et démontrer leurs possibilités à la grande échelle. Parce que ces procédés, si je peux dire, n'auront pas les performances en termes de densité d'énergie ou d'autonomie, ou au plus des systèmes qu'on a aujourd'hui. Mais ils vont présenter, je dirais, cette caractéristique d'éco-compatibilité qui est primordiale dans les années à venir. Par conséquent, il y a des applications où il ne vous faut pas beaucoup de densité d'énergie, par exemple, ce n'est pas pour la voiture, mais pour tous ceux qui ont les applications réseau, où ces sortes d'accumulateurs peuvent avoir un avenir. Je dirais, dans la même sorte, si vous voulez, aujourd'hui, on essaie de travailler sur des systèmes au sodium, dans lesquels on va remplacer le lithium par le sodium, car c'est un élément très abondant. Et là, je dirais que, bon, au niveau français, dans le cadre du réseau, et surtout avec cette fois le CEA pour faire du transfert, eh bien, il y a tout un programme français voué à développer une technologie sodium-ion.
Alors, vous voulez dire qu'on est à la pointe ?
En toute modestie aussi, je crois que la France, en ce domaine électrochimie des batteries ou des supercondensateurs, on est certainement parmi les 5 premiers pays au monde.
Formidable.
En recherche. Bien sûr, en industrialisation, c'est moindre, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas, je dirais, le même système, les grandes compagnies, pour directement prendre automatiquement ces découvertes.
Ça veut dire que ces grandes découvertes pourraient un jour être exploitées par les Américains ou par les Chinois. C'est ça que ça veut dire ?
Bah écoutez, c'est ça, oui, c'est ça, mais bon, c'est bien sûr, c'est ce qu'on est en train d'y remédier, car ça a été une des motivations majeures pour fédérer la recherche au niveau français et de créer ce réseau du stockage électrochimique et l'énergie français, dans lequel on allie les chercheurs, les services publics avec le CEA, et ainsi de suite, et les industriels. Ce qui fait que finalement, on essaie d'établir un système ou, je dirais, une trajectoire rapide pour aller très vite du produit, de l'idée au produit. Car effectivement, qu'est-ce qui s'est passé il y a de cela 20 ans ou 30 ans, où la plupart des brevets clés, j'ose dire, étaient des brevets européens, tout s'est développé en Asie. Voilà. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en Asie, ils ont réussi à avoir la recherche et l'industrie intégrée. Et bon, les pionniers, je dirais les premiers à avoir développé cette technologie, c'est Sony. Pour la bonne et simple raison, c'est que Sony a développé la technologie pour l'intégrer dans ses produits automatiquement. Et en France, on n'a pas directement cette chaîne d'intégration. Et c'est ce qui nous manque, et c'est ce qu'on essaie de combattre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas directement, on veut transformer l'histoire, on ne veut pas la bégayer.
Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients des enjeux ?
Oui, je pense que les pouvoirs publics sont conscients des enjeux. Je pense que c'est même pas... Bon, on parle souvent du financement. Je pense qu'il y a les financements corrects, je veux dire. C'est surtout d'arriver à structurer les recherches et de faire en sorte que nos forces puissent être coordonnées et travailler selon un certain objectif et un commun objectif. Je pense que c'est finalement... Il y a la force, il faut directement en faire la somme correcte.
C'est un grand bonheur, je pense, pour un chimiste de travailler au Collège de France. Finalement, je pense que pour vous, Jean-Marie Tarascon, vous êtes entouré par des gens magnifiques. Est-ce que vous avez d'abord des contacts avec vos collègues littéraires et tous ceux qui travaillent dans d'autres disciplines, ou est-ce que vous restez très entre vous, Marc Fontcave, vous et les quelques autres chimistes du Collège ?
Oui, alors bon, au collège, effectivement, il y a mes collègues directs, comme vous avez mentionné, Marc Fontcave ou Clément Sanchez, lesquels
Clément
on interagit.
Aussi.
Mais il y a aussi, bon, je suis un peu, j'ai un goût pour la physique, et je développe beaucoup d'interactions avec des physiciens, et notamment un physicien, on est sur les mêmes, Antoine Georges, qui a fait des supraconducteurs dans le temps, et on partage beaucoup sur la chimie du solide avec lui, on a souvent des réunions, et c'est passionnant de pouvoir travailler avec un théoricien et d'avoir, je dirais, cet échange direct.
Enfin, vous avez beaucoup de chance, parce qu'en réalité, l'administrateur est un prix Nobel de physique, donc c'est quelqu'un qui est au cœur de toutes ces questions et qui connaît très très bien le problème de la recherche, évidemment.
Bien sûr, je crois que là, on a une chance inouïe. Hein. Ouais. On a une chance inouïe, puis d'être compris dans ses recherches, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Mais également, je dirais, un aspect attrayant du collège, c'est effectivement le fait qu'il y ait des professeurs de disciplines totalement différentes. Et les écouter, c'est souvent passionnant.
Oui, vous avez donc des échanges avec
les... Il y a des échanges, mais les écouter...
Avec les philosophes, avec...
Voilà, et leur vision,
les historiens.
Suite, voilà, leur vision, leur façon de commenter, de s'exprimer. C'est passionnant, des fois, c'est impressionnant aussi, des fois.
Oui,
et ça ouvre... On s'aperçoit que c'est deux mondes.
Ça ouvre des mondes.
Oui. Et des fois, on a l'impression d'être... bien léger à côté.
N'exagérons rien. Jean-Marie Tarascon, je vais vous demander d'ailleurs de nous dire un peu comment vous avez travaillé pour cette première année de cours, donc 2014, donc chimie du solide, de l'atome vers les matériaux pour l'énergie. Quel est le contenu de ce cours? Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu la substantifique moelle?
Oui. Écoutez, je vais prendre votre question à l'inverse, en définissant d'abord l'énergie.
Oui.
Et vous montrer pourquoi les matériaux sont importants. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde au jour d'aujourd'hui, la transition énergétique, oui. Eh bien, les facteurs clés, c'est tout simplement comment mieux gérer l'énergie, comment la stocker, comment la convertir, et tout cela à la grande échelle. Et on peut regarder, si on veut convertir aujourd'hui l'énergie, on a par exemple le photovoltaïque. On veut stocker, on a les batteries. Et si on regarde les lois de la physique qui règlent tous ces phénomènes, eh bien, elles sont connues. C'est-à-dire que les lois fondamentales sont connues. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Et que ce soit dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine d'autres technologies, les points clés sont les matériaux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon matériau, eh bien, vous allez être limité en performance, vous allez être limité en durée de vie, ainsi de suite. D'où les matériaux, je dirais, c'est le dénominateur commun de la plupart d'autres technologies. Que ce soit les technologies de laser, ainsi de suite, le tout repose sur les matériaux. Alors, je ne prêche pas, bien sûr, pour ma paroisse, mais c'est un fait. Et dans ce cours, si vous voulez, mon but a été de montrer en quoi les technologies du photovoltaïque, les technologies des thermoélectriques, les technologies du stockage d'énergie, des piles à combustible, étaient reliées aux matériaux et comment les matériaux, directement, étaient, je dirais, l'élément clé pour ces différentes applications.
On a l'impression, nous autres, tout à fait ignorants de ces questions, qu'en réalité, on invente énormément de nouveaux matériaux. Est-ce que c'est vrai?
Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être, pour nous, non. Parce qu'on est un peu des frustrés, effectivement, de ne pas découvrir et d'améliorer les matériaux à la vitesse que l'on souhaiterait. Là, pour une simple raison, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, les technologies évoluent fortement. Et on voudrait toujours des matériaux plus performants. Et un nouveau matériau va souvent générer des propriétés physiques exotiques qui vont pouvoir conduire à de nouvelles technologies. Alors si on regarde dans l'histoire, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, la chimie inorganique, la chimie que l'on pratique, est une chimie qui est pratiquée pendant des siècles, des millénaires. Mais des choses sont effectuées, des matériaux sont trouvés, mais si vous regardez l'échelle, mais c'est une échelle de 2000, 3000, 5000, 10000 ans et plus. Au jour d'aujourd'hui, rappelez-vous des discours sur la transition énergétique, il faut qu'on ait une solution en 2050. Ouais. Ce qui fait qu'on n'a que 25 ans
pour
finalement trouver plus de matériaux que l'humanité a pu trouver. Voilà. D'où c'est la raison pour laquelle, si je peux me permettre, ça met une pression énorme aux chercheurs. Alors bien sûr, on a le tableau périodique, mais dans le tableau périodique, vous avez tant de combinaisons de formules qui sera impossible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on entend beaucoup parler du matériau génome. C'est-à-dire qu'on essaie de combiner tout cela avec la théorie et faire une théorie combinatoire raisonnée pour identifier des matériaux. Mais malheureusement, on n'est pas là encore.
Au fond, on a l'impression quand même que tout le monde travaille à peu près dans le même sens. Par exemple, les gens qui s'occupent d'astronomie et qui, par exemple, tentent de trouver des nouveaux matériaux pour aller dans l'espace, naturellement, et qui, d'ailleurs, dans l'espace, cherchent de nouveaux matériaux. Enfin, y a toute une ébullition quand même très axée sur ces questions. Parce que ça marche dans tous les sens.
Ça marche dans tous les sens. Et bon, savoir...
Tout le monde cherche des nouveaux matériaux.
Tout le monde cherche des nouveaux matériaux, bon, mais il faut regarder la complexité. Parce qu'un matériau qui va pouvoir être utilisé pour des applications du stockage, par exemple, stockage de l'information, est totalement différent pour le stockage d'énergie. Le principe. Stockage de l'information, très simple. Regardez les progrès qu'il y a eu. On suit la loi de Moore. C'est-à-dire qu'on double tous les 18 mois. Dans les matériaux qu'on travaille pour l'énergie, on double tous les 100 ans. Vous voyez cette échelle.
Oui.
Pourquoi? Parce que nos applications, nos matériaux, leurs propriétés reposent parfaitement ou directement sur la chimie. C'est-à-dire sur la liaison chimique. Et une liaison chimique, il y a deux électrons. Et coup facier, ce coup facier, c'est limité. On connaît déjà les limitations. D'où il faut directement chercher de nouveaux concepts, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on fait, et ce qu'on a fait récemment. D'ailleurs, on a trouvé des trucs assez intéressants récemment. Sur ces nouveaux concepts, par exemple, tout récemment, si vous voulez, dans le domaine des accumulateurs ion lithium, tous les matériaux d'électrode travaillaient sur des systèmes redox cationiques. Pour être simple, un matériau d'électrode pour lithium-ion, c'est une éponge à lithium. Et vous mettez du lithium dans cette éponge, et le réseau cationique, qui est les charpentes de cation métallique, vont être réduits ou oxydés. Et depuis 25 ans, toute notre réflexion est basée là-dessus. Et récemment, il y a un an, au collège, on a montré que, finalement, cela n'était plus vrai. On a réussi à montrer, finalement, que les anions, qui constituent le reste du réseau, peuvent également participer à ces réactions redox. D'où, par exemple, c'est une amélioration considérable de la capacité de l'électrode. Mais bon, malgré cela, on est toujours à 2 électrons, pas plus. On est quand même limité. C'est un peu ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que les matériaux, effectivement, il y en a, mais il faut arriver à les synthétiser. On peut les concevoir et les synthétiser. Et c'est un peu, si je dirais, le but du cours que je vais faire cette année, c'est comment on va synthétiser ces matériaux, les ordonner, et, si possible, voir comment ces atomes, on peut les mettre ensemble pour développer des propriétés spécifiques.
Quelle est la part donc, du cours et la part de la recherche? C'est-à-dire, vous rassemblez vos cours et ensuite vous partez sur le terrain ou vous restez sur le terrain dans les laboratoires de l'école. Comment est-ce que vous travaillez, Jean-Marie Tarascon, concrètement?
Alors, les cours, je dirais, c'est quand même des choses qui sont au collège très difficiles. Bon, souvent, ça fait rire nos collègues quand on dit le nombre d'heures de cours que l'on a. Mais les cours, il faut qu'ils soient préparés pour un public divers, varié, et qu'on court finalement un domaine très grand.
Mais alors, qui vient vous entendre? Parce que ça ne peut pas être des gens comme moi qui sont vraiment très nuls dans ces domaines. Donc, ça, c'est forcément des gens très, quand même très avertis.
Non, justement, c'est ce qui fait la difficulté dans la préparation des cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des cours dans lesquels, je dirais, la complexité monte crescendo le long du cours. C'est-à-dire qu'au départ, il faut que pendant 15 minutes ou 20 minutes, votre cours soit compréhensible à tout le monde. Car qui vient au collège, eh bien, on a beaucoup de personnes retraitées, d'anciens professeurs, d'anciens ingénieurs qui viennent écouter. Et on a également des étudiants qui font des masters plutôt spécialisés dans certains domaines. Et il faut qu'on arrive dans les cours à intéresser les deux aspects, même voir les trois aspects, il peut y avoir d'autres personnes. Donc c'est la complexité de faire des cours, ce qu'il faut simplifier, vulgariser, pas trop, parce que sinon il y a des personnes qui sont spécialisées vont s'ennuyer. Il faut arriver à faire ce bon milieu, ce qui n'est pas évident. Et de plus, la difficulté, faire des cours au collège, ce n'est pas directement prendre les résultats de la recherche et aller les exposer. Il faut beaucoup plus, je dirais, de profondeur et d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur, parce que bon, notre mission, c'est également de faire savoir la recherche qui est en train de se faire.
Bien sûr.
Ce qui fait qu'il faut tout remettre dans le contexte. Et troisième facteur, ce qui est important, c'est qu'au collège, vous n'avez pas le droit de faire deux cours identiques. Il faut se renouveler tous les ans. Alors quand on arrive, je dirais pendant deux ou trois ans, on a peut-être des réserves, mais après cinq ou six ans, il faut aller sur des domaines dans lesquels on n'est pas du tout des spécialistes, et ça demande un travail énorme. Même déjà quand vous avez le matériel.
Ready? Ready? Jean-Marie Tarascon. Vous travaillez au laboratoire du Collège de France.
Oui, oui.
Je dirais, c'est un des laboratoires les plus modernes du monde.
Enfin, plus moderne. Enfin, on a une chance inouïe, je dirais. On a des laboratoires tout neufs, localisés en plein centre de Paris. Bon, les laboratoires sont très fonctionnels. Et bon, on est là depuis combien ? Un an, il va y avoir un an bientôt. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qu'on invite, ainsi de suite, sont ravis et admiratifs des locaux que l'on a, définitivement.
Est-ce que vos étudiants travaillent aussi dans ces laboratoires avec vous ?
Ah oui, bien sûr. Hein.
Comment ça se passe ?
Ah mais là, bon, c'est là. C'est...
Vous donnez des cours d'un côté et de l'autre côté, certains de vos étudiants participent aux recherches. Donc, si je comprends bien.
Ah bien sûr, tous les étudiants, les étudiants sont dans le groupe, sont embauchés, ils sont dans le groupe, ils travaillent, ils font leur thèse dans le groupe. C'est-à-dire, je vois les étudiants tous les jours, ce qui rend jeune.
Vous pensez que c'est le système idéal, le Collège de France ?
Est-ce qu'il y a un système idéal ?
Que c'est le moins mauvais possible ? C'est le meilleur possible ? Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Parce qu'il y a quand même, récemment, il y a eu tout un travail de mise en place qui a d'ailleurs été commencé par Corvol, ancien administrateur, et que le nouvel administrateur Haroche a poursuivi, qui a été de faire un vrai staff scientifique en unifiant tous les lieux de recherche à Paris, qui pouvaient avoir des contacts directs, échanger leurs trouvailles, etc. Et est-ce que ça marche et comment est-ce que vous le faites fonctionner ?
Oui, enfin, définitivement, je pense que au collège, il y a pas mal d'interactions, comme on l'a mentionné déjà avec les professeurs. On a établi des séminaires pour l'Institut, de chimie du collège. On est en train, de mettre toute une dynamique pour justement fédérer et faire, cet environnement scientifique dans lequel, les étudiants peuvent s'épanouir.
Parce qu'il y a aussi les laboratoires de Normalsup qui sont partie prenante, et tout ce qui, au fond, est autour de la montagne Sainte-Geneviève. Ils ont cherché, le Collège de France a été un des éléments moteurs pour créer une émulation dans la recherche scientifique. Ça, c'est absolument...
Le Collège de France a quand même changé, depuis que je ne suis pas vieux du Collège de France, mais la politique du Collège de France a changé en menant ces laboratoires de recherche.
Oui.
Et c'est excellent. Il y a quand même, comme vous savez, la partie enseignement, et pour un chercheur passionné, faire l'enseignement peut être moins prenant que faire la recherche quand on est passionné par la recherche. D'où le système idéal, j'aurais tendance à croire encore pour un chercheur, et le système qu'on avait aux États-Unis, le système américain, lorsque j'étais à Bell Labs ou Bellcor, où là on était à 150% dans la recherche. Bon, au collège, effectivement, faire l'enseignement, c'est du travail, mais c'est aussi passionnant. Mais je dis une fois de plus, c'est difficile parce que même différent les thématiques. Lorsque je faisais mes cours sur développement durable, énergie, j'avais un discours qui était quand même totalement différent que du discours que je vais avoir, que j'ai eu l'an dernier, que je vais avoir encore cette année. Ou cette année, que je commence à devenir quand même assez spécialisé, si je peux dire, dans la recherche en disant, maintenant, je vous ai parlé de tous ces matériaux, il va falloir qu'on regarde comment on va les faire. Et comment on va les faire, ça va demander quand même de la connaissance scientifique, de rappeler des bases et de partir après de ces bases et de montrer le raisonnement logique, ce qui se passe à la tête d'un chercheur pour construire ces matériaux de demain. Et ça, il faut arriver à le rendre, compréhensible à le plus de personnes possible. Et c'est là un peu le challenge, Challenge qui est de l'effort, mais qui d'un côté, lorsque vous réussissez, c'est passionnant. Mais c'est un effort, il est quand même énorme.
Enfin, vous êtes passé par Amiens, donc vous avez l'habitude d'enseigner tout de même.
Ah oui, non, mais ce qui est normal, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'heures de cours. Mais l'exigence d'un cours au collège est incroyable. Sans parler d'une leçon inaugurale, où là, c'est atroce.
On va l'écouter demain, votre leçon inaugurale. Mmh. Dites-moi, quels sont vos projets, Jean-Marie Tarascon ? Qu'est-ce que vous avez dans l'idée ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
En ce moment, si vous voulez, je suis totalement mordu par... c'est la dernière découverte qu'on a faite sur le fait que maintenant, on puisse utiliser ces fameux anions comme éléments participateurs à la réaction redox. Tout ça, je pense que c'est vraiment un paradigme dans ces recherches. Et aujourd'hui aussi, ce qu'on a fait, qui est assez, une première également, c'est que comme on a trouvé notre système, il a fallu, dans ce cas, trouver une méthode analytique pour aller vérifier, finalement, ces fameux ions, anions, peroxydes, ainsi de suite. Et là, on a fait appel à un collègue de Lille et un collègue sur Paris, Hervé Vézin à Lille et Didier Gourrier sur Paris, où, dans ce cas, eh bien, on a développé une technique in situ de résonance paramagnétique électrique. Alors, c'est une technique qui est connue, hein, qui a déjà été étudiée, mais qui n'a jamais été appliquée directement dans le domaine des batteries. Et là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut suivre un accumulateur, c'est-à-dire un matériau d'électrode, vous savez, lorsque vous mettez des atomes, des ions, eh bien, on peut voir comment ça se passe. Et de plus, on a réussi à faire, et ça c'est une première également, de l'imagerie. C'est-à-dire qu'on va maintenant voir, dans votre électrode, à quel endroit de l'électrode, eh bien, le cation va être réduit, ou l'anion va être réduit, ou oxydé, ainsi de suite. D'où, voilà, si vous voulez, un peu ces recherches que l'on fait aujourd'hui, et, je dirais, cette découverte de redox anionique ouvre de nouvelles opportunités, autant pour les matériaux d'électrode, pour les technologies à ion sodium, mais également pour le domaine de l'électrocatalyse, et ainsi de suite. Et c'est ces domaines, si vous voulez, qu'on est en train de lancer, de développer, basés sur, je dirais, cette découverte. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les recherches que l'on fait aujourd'hui, et on fait ça, bien sûr, avec le groupe au Collège de France.
Alors, normalement, Jean-Marie Tarascon, je ne suis pas censée penser, et je ne le pense pas d'ailleurs, que la recherche doit être purement et uniquement utilitaire, parce que le jour où elle devient purement et uniquement utilitaire, la recherche est morte. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'applications pratiques et concrètes qui peuvent finalement survenir de vos travaux.
Oui, alors, je dirais, la recherche, bon, je vais encore caricaturer votre question, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Oui. Je pense que tout ça, c'est un débat qui est dépassé. Je pense que tous les travaux que nous faisons aujourd'hui, eh bien, sont de magnifiques sujets fondamentaux qui relèvent d'une application bien déterminée. Simplement, cette fameuse découverte qu'on vient de faire, elle a été faite pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a 4 ou 5 ans de ça, des chercheurs ont trouvé des matériaux qui avaient des capacités doublées, triplées, exacerbées. Ils n'en comprenaient pas l'origine. En même temps, comme ces matériaux étaient spectaculaires, les grandes compagnies, BASF, 3M, ont acheté les brevets et ont tenté de développer ces matériaux, les commercialiser. Un autre problème inhérent à ces matériaux a été une chute au potentiel en cyclage. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez votre accumulateur, supposez que votre téléphone il va marcher pendant 50 cycles et chaque fois l'intensité va diminuer. Je schématise. On ne savait pas pourquoi. Eh bien tout ça nous a directement, on avait les deux problèmes et la démarche scientifique était simple. Comment réussir à simplifier ce problème qu'on arrive d'un point de vue fondamental à comprendre ce qui se passe. Et on a pris des matériaux qui étaient dans le commerce, qui étaient d'une complexité énorme, et par la chimie, on a essayé de faire des substitutions, je dirais, avisées, pour simplifier le problème. Et on a réussi à finalement avoir un matériau type, idéal, modèle, à partir duquel on a pu le construire. Voilà. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'on a refait le chemin en arrière, compris pourquoi il y avait ces difficultés, et sur cette route, eh bien, on a trouvé de nouveaux mécanismes, et ouvert à toute une autre multitude de matériaux, pour le sodium, pour l'électrocatalyse, et ainsi de suite. Et ouvert, je dirais, un nouveau domaine de recherche. Et si vous voulez, c'est bon. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut ce jeu de ping-pong entre la recherche, ou entre directement la recherche du laboratoire et la recherche industrielle. Car, de nouveau, ce contact est énorme, c'est formateur. Car vous savez directement quels vont être les besoins de demain, quels matériaux faudrait dessiner, et comment, à la paillasse, eh bien, de nouveau, manipuler les atomes pour ajuster leur structure, autant de structures cristallographiques qu'aux structures électroniques, pour accorder les propriétés.
Au fond, le travail du chimiste n'a pas beaucoup changé. Il s'agit d'observer, de comprendre, de voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. C'est toujours pareil depuis l'Antiquité.
Vous avez parfaitement raison, je pense que c'est toujours pareil. Par rapport à l'Antiquité, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des lois scientifiques, mais je pense que l'intuition, la curiosité, l'observation sont des facteurs clés pour trouver de nouveaux matériaux. Et surtout, ne pas suivre des sentiers battus. Essayer directement d'aller se perdre dans le bois et faire directement notre petit chemin et voir pourquoi et comment ça se passe.
Et puis on a aussi l'impression, Jean-Marie Tarascon, que les scientifiques qui travaillent dans ce genre de domaine sont très conscients des enjeux pour l'humanité de leurs travaux, des enjeux d'urgence aussi.
Les enjeux d'urgence, je crois que c'est une obligation, ça nous a répété souvent. Mais bon, il faut quand même aussi laisser le temps. Hein. Laisser le temps au temps, parce que bon, trouver de nouveaux matériaux, il peut y avoir des nouvelles méthodes. Parce que bon, si vous voulez, on travaille, c'est l'histoire dans ce domaine est très riche. Parce que bon, vous prenez Edison, qu'est-ce qu'il faisait? C'était peut-être un des meilleurs chimistes, sans le savoir. Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, la méthode edisonienne, c'était directement l'approche combinatoire, c'est-à-dire on mélange tout, on fait des milliers d'essais et on essaie de trouver finalement le bon. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme ça, si vous voulez, que les gens voudraient opérer. Alors bien sûr, ça a l'air simple, il y a des robots, tout est facile pour robotiser tout ça. Mais on s'aperçoit que si on n'y met pas un peu, je dirais, d'intelligence, un peu de déduction, de chimie déductive, on ne va pas loin. Et c'est la raison pour laquelle, bon, maintenant on fait, comme je vous l'ai mentionné, la chimie combinatoire raisonnée. Bon, matériaux génome, ce que Barack Obama a fait, je dirais, le point important aux États-Unis, c'est que dans la même chose, comment on peut accélérer cette recherche des matériaux? Comment savoir les matériaux qui existent? Comment déterminer les formules? Comment déterminer leurs propriétés? C'est ce que tout le monde voudrait savoir. Mais malgré tout ça, il va rester qu'il vous faut le chimiste pour les synthétiser, pour les fabriquer. Et pour cela, bien, on n'a pas des lois qui sont bien définies. Il y a l'essai, il faut faire des essais. On peut avoir ces essais peuvent être guidés, mais il faut quand même observer, être curieux, et puis un peu avoir l'intuition et puis vouloir changer. Pas être répétitif. C'est souvent d'ailleurs, mon épouse me dit, je ne comprends pas comment tu arrives à faire de la recherche. Parce qu'effectivement, quand je fais de la cuisine, je n'arrivais jamais à faire deux fois la même chose. Et je pense que la recherche, c'est peut-être un peu comme ça.
Il faut être un aventurier.
Alors ouais. Ça, c'est des faux, parce que bon, des fois, pour reproduire ce qu'on a, on a la chance, on va faire un produit, pour le reproduire, des fois, il faut deux mois. Parce qu'on n'a pas pris les détails. Mais bon, c'est le chercheur.
Merci beaucoup, beaucoup, Jean-Marie Tarascon. C'était tout à fait passionnant. Merci infiniment.
Écoutez, merci à vous.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec Jean-Marie Tarascon pour écouter sa leçon inaugurale de l'année 2014. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.